Donc le sujet, c'est la laïcité vue par un musulman. Donc quel regard le musulman, en principe, doit porter sur cette exception française, qui est la laïcité institutionnalisée, un principe areligieux de neutralité à l'égard de toutes les religions, une nouvelle expérience pour les musulmans de vivre dans un espace laïque. Une situation qui interroge l'islam d'une part, mais une situation aussi qui fait que l'islam aussi interroge une laïcité qui est un aboutissement, un processus de sécularisation qui dont le résultat est la laïcité que nous connaissons aujourd'hui. Laquelle laïcité a été tout un combat contre la domination du catholicisme, en particulier sur l'espace politique et public. Et donc, c'est une construction historique qui a abouti à cette forme que nous connaissons aujourd'hui avec la loi 1905, qui n'a pas prévu la visibilité de l'islam et la présence de l'islam. Donc, c'est une laïcité que Bobbio, un grand spécialiste de la sécularisation, a qualifiée de catho-laïcité, c'est-à-dire c'est une laïcité qui s'est construite dans un univers catholique. Elle reste une laïcité à dominante culturelle catholique. Ça, il ne faut pas l'oublier, il y a un soubassement catholique de cette laïcité. Cependant, elle prétend accéder à l'universel. C'est une construction, c'est une négociation en permanence avec le fait religieux. Donc, à cet égard, je conçois que la laïcité, c'est un rapport dynamique de concertation, de négociation entre le fait religieux et le principe de laïcité, qui est un principe de neutralité et qui met l'État à l'abri de la domination d'une religion particulière et qui met à l'abri l'espace public de la domination de toute religion. Nous sommes effectivement dans le continent le moins religieux du monde et nous sommes en Europe, bien sûr, et nous sommes dans le pays le moins religieux de l'Europe. Donc nous sommes dans l'exception de l'exception. Le monde autour de nous est en effervescence religieuse, que un grand spécialiste de la sociologie des religions, un Américain qui s'appelle Peter Berger, et qui dit que le monde aujourd'hui est furieusement religieux. Donc il y a la mondialisation, il y a le retour au religieux. Nous connaissons la sécularisation particulière de l'Amérique, qui est quand même reste protestante. Le continent asiatique, c'est un foisonnement de religions. L'orthodoxie réémerge avec l'effondrement du système communiste. Donc il y a un couvercle qui s'est levé, des systèmes qui ont éclaté. Et avec la mondialisation, il y a des revendications identitaires qui éclatent un peu partout. Donc nous sommes dans une nouvelle configuration du monde où le fait religieux doit être pris en considération. La France n'est pas à l'abri de ces métamorphoses géopolitiques qui touchent l'Europe et qui vont toucher la France avec la nouvelle composante de l'islam dans la République. Et donc, voilà un petit peu sommairement la situation mondiale et le rapport de la sécularisation avec la religion. Il y a une tentation de réenchantement, hein, de désécularisation. Donc, les religions sont là. Comment gérer ce retour, que ce soit au niveau du judaïsme, que ce soit au niveau du christianisme, du protestantisme, avec les mouvements d'évangélisation, avec les mouvements islamistes dans le monde musulman et qui désormais sont dans l'espace européen. Comment voir avec lucidité cette réémergence du fait religieux, avec les bouleversements identitaires de notre République dans son à cause de son intégration en Europe, le déplacement de la souveraineté, le déplacement de la norme juridique. Maintenant, presque 70% des lois qui nous concernent en tant que citoyens français viennent du Parlement européen. Donc, il y a une situation de bouleversement de système politique avec les revendications linguistiques, régionales, avec la décentralisation, avec la crise des institutions et avec une réémergence, comme j'ai dit tout à l'heure, du fait religieux qui s'avère plus ou moins menaçant. Donc, la laïcité française désormais est confrontée à cette situation nouvelle, exogène et endogène. Exogène, c'est-à-dire la mondialisation, Il se trouve minoré dans l'univers des États-nations. C'est le seul pays où la laïcité est mentionnée dans sa constitution. À cet égard, elle est minoritaire déjà en Europe. Donc, c'est pourquoi la France est en permanence négociation pour une constitution européenne laïque, hein, donc pour que la laïcité soit exportée. Donc, il y a des enjeux européens, il y a des enjeux mondiaux, mais aussi il y a des enjeux intrinsèques. Vu la nouvelle composition de la société française avec l'islam qui est la deuxième religion de France. Donc, sachant que la laïcité contient des paradoxes, donc c'est-à-dire il n'est pas appliqué dans l'Alsace et dans la Moselle, dans des départements d'outre-mer. Il y a le législateur qui a accepté la présence des aumôniers et des religieux dans la prison, dans l'hôpital et dans les établissements publics. Donc, cette laïcité n'exclut pas totalement la religion de l'espace public. Cependant, il essaie de le gérer afin qu'il ne domine pas totalement et que sa visibilité ne trouble pas l'ordre public. Il y a plusieurs lectures de la laïcité. Il y a une lecture politique, donc des enjeux politiques. La laïcité de la droite n'est pas la laïcité de la gauche. Donc, au point de vue pratique, politique, l'interprétation des gouvernements successifs quant à cette laïcité est à géométrie politique variable. Il y a aussi la lecture juridique de la laïcité, c'est-à-dire ce côté quantifiable de la laïcité. Et puis, il y a la laïcité philosophique, c'est-à-dire comme un espace où peut cohabiter toutes les religions, toutes les tendances, toutes les convictions. Donc il y a plusieurs niveaux de la laïcité que je ne peux pas aborder. Ce n'est pas mon rôle de donner des leçons sur ces aspects de la laïcité. Cependant, ce qui m'intéresse pour moi en tant que musulman dans cette laïcité, comment je dois négocier, que je dois lire la pratique musulmane dans cet espace qui est la laïcité. D'abord, il faut rappeler que l'islam, c'est d'abord une religion spirituelle. L'image que nous donnons aujourd'hui, que donnent les masses médias aujourd'hui de l'islam, c'est une religion politique totalisante, envahissante, conquérante, et on omet tout l'aspect qui fait son essence même, qui est la transcendance et la spiritualité. Et on l'étudie en tant que phénomène sociologique, politique, géostratégique, ce qui est tout à fait normal. Mais on oublie les fondements même de cette religion, on l'assigne comme une religion incapable de s'adapter. Mais l'histoire nous dément, c'est-à-dire l'histoire nous donne des contre-exemples. L'islam a toujours su, à travers les cultures, l'histoire, épouser les contours des cultures qu'il a côtoyées, il est capable de se séculariser. Moi-même, je travaille sur les aspects et les zones sécularisables de l'islam. Donc, c'est tout un travail herméneutique, tout un travail théorique, juridique, éthique, canonique sur la norme et sur le rapport entre la théologie et le normatif, le politique et le religieux. Est-ce que l'islam est sécularisable? Bien sûr qu'il est sécularisable. Toutes les religions sont sécularisables. Et il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect humain tout simplement. Un musulman, c'est d'abord un être humain. On l'oublie souvent. Le réduire uniquement à une licence religieuse, c'est ne rien comprendre au phénomène religieux en général. Un musulman, un chrétien ou un juif, c'est d'abord un être humain situé et daté dans une culture, dans une psychologie, dans une sociologie. Peut-être son rapport avec sa religion est déterminé essentiellement par son contexte. Il peut être un rapport de frustration, de crispation, tout en se basant sur un élément qui se constitue comme un ingrédient catalyseur de cette identité, qui est le facteur religieux, mais qui n'est pas le seul facteur, le seul élément identitaire. Et donc, l'islamité est une construction historique. La preuve, c'est que l'islam indonésien n'a rien à voir avec l'islam marocain. L'islam anglais n'a rien à voir avec l'islam français. L'islam américain, les musulmans en Amérique, ils vivent dans un autre contexte, ils s'adaptent à cet univers protestant où la sécularisation n'est pas la même que la France. À chaque communauté musulmane doit faire l'effort de s'adapter à son contexte. Le Coran lui-même, il s'est adapté à la culture mécoise, médinoise, donc il n'a pas canonisé un modèle anthropologique, il a pris en considération dans son métabolisme du discours coranique, c'est-à-dire que l'enveloppe culturelle est nécessaire pour la transmission de la religion. Pour nous, musulmans aujourd'hui en France, quelle est la part nécessaire d'intégration de la culture, non seulement le droit français, ça c'est évident, mais la part de l'histoire et de la culture française comme un revêtement de transmission de la religion de génération en génération. C'est-à-dire que le rapport à l'islam ne peut se réussir qu'en intégrant le contexte. C'est ce que j'appelle par la charia de minorité, c'est-à-dire le système normatif et le système théologique pensé dans l'histoire occidentale et dans le droit français notamment. Donc l'islam dans cet espace, il est en quête d'identité. Bien sûr, il y a des séismes qui causent des problèmes parce que la communauté musulmane, malheureusement, est une communauté, je dirais, sociologiquement, économiquement défavorisée. Il est issu d'immigration, donc il est déterminé dès son départ par sa situation économique et intellectuelle qui fait que son rapport à sa religion n'est pas vraiment un rapport théologique. Nous n'avons pas encore de grands théologiens, de grands canonistes qui sont occidentalisés de par leur façon de voir le monde, d'intégrer la modernité, la sécularisation française dans le rapport au texte. Donc c'est une question de temps. L'intégration ne se décrète pas en deux secondes. L'islam s'en intègre. Bon, le catholicisme a mis beaucoup de temps à s'adapter à la laïcité. Même après 1905, les catholiques se sont opposés à l'application de 1905. Ils étaient presque contre la loi 1905. Donc, pour vous dire que il ne faut pas demander aux musulmans en 25 ans, en 35 ans, ce que les autres religions n'ont pas pu réaliser en des siècles entiers. Donc, c'est une question de temps. Je pense que l'histoire détermine l'adaptation. Cependant, il y a beaucoup d'obstacles à cette intégration. Il y a des enjeux politiques, il y a des enjeux mondiaux qui viennent entraver cette intégration, l'intégrisme, le terrorisme, beaucoup d'événements qui traversent le monde musulman qui est en effervescence, mais ça c'est une autre problématique. Qu'est-ce qui se passe dans le monde musulman? C'est vrai que la communauté musulmane n'est pas à l'abri de ces métamorphoses qui traversent le monde musulman, mais il faut dire que l'islam de France, il commence à se démarquer intellectuellement, théologiquement, canoniquement par rapport à cet islam qui est vécu dans d'autres cultures, dans d'autres univers politiques et culturels qui n'ont rien à voir avec la modernité, avec l'Occident dans lequel nous vivons. Donc, j'appelle double démarcation par la démarcation canonique, c'est-à-dire il faut que nous nous démarquions par rapport aux constructions canoniques élaborées dans une histoire, dans un temps donné, dans des cultures données, et démarcation politique, c'est-à-dire refuser l'ingérence des pays étrangers dans les affaires de l'islam de France. Beaucoup d'obstacles, bien sûr, se présentent à cet égard, tels que la formation des imams. Nous n'avons pas encore nous ne bénéficions pas d'un grand de certains avantages de la laïcité, tels que des universités de théologie en Alsace et la Moselle, puisque là, on forme les prêtres et les pasteurs, parce que là, le culte est subventionné par l'État, la laïcité n'est pas appliquée, donc on ne bénéficie pas des subventions de l'État et des avantages fiscaux, parce que nous sommes en quête d'installation et que la laïcité n'a pas prévu cette visibilité qui apparaît aux yeux des Français moyens comme une agression à l'histoire occidentale, comme une agression à la culture. Nous lisons la visibilité de l'islam sous des prismes un petit peu réducteur. Nous avons une mauvaise interprétation de par notre histoire occidentale, les croisades, l'Algérie, là c'est beaucoup de traces dans les mentalités occidentales. Donc nous lisons cette nouvelle présence sous le prisme d'une histoire qui pèse encore sur les mentalités. Il faut dire aussi qu'il y a des fêlés dans notre communauté, il y a des gens qui sont à côté de la plaque, il y a des intégrismes, comme il y a aussi dans le judaïsme, le christianisme, le protestantisme et le catholicisme, des intégrismes, mais la caméra n'est pas braqué sur ces phénomènes. Il faut dire que l'intégrisme musulman est une minorité. La masse écrasante des musulmans, ils ont l'intelligence de leur contexte. Ils essaient un petit peu d'avoir un rapport assez intelligent. Cela dit, il y a une spécificité dans le rapport religieux. L'islam La visibilité de l'islam, c'est pas la visibilité du catholicisme, parce que la pratique catholique, c'est pas la pratique musulmane. La pratique juive n'a rien à voir avec la pratique musulmane. Donc pourquoi voir la pratique juive comme une orthodoxie et la pratique musulmane comme un intégrisme et un prosélytisme? Donc il y a un problème culturel, il y a un manque de dialogue. La laïcité, quelquefois, elle est lue dans le sens le plus obtus, en refusant le dialogue et l'accueil de l'autre, et d'essayer de comprendre l'autre avant de le juger. Je m'arrête là pour donner espace à vos questions et évoquer des aspects que je n'ai pas traités. Je vous remercie. On ne peut pas dire qu'il y a une théocratie dans le sens que vous l'entendez. L'histoire musulmane a démontré qu'il n'y avait pas des religieux sur la tête le calife n'était pas le pape. Quelquefois, c'est un tyran qui n'a rien à voir. C'est vrai, il y avait le pouvoir des savants, de l'ulama, il y avait le pouvoir politique. Quelquefois, il y avait un divorce total. L'islam, par essence, est une religion sécularisée dès le départ. C'est-à-dire que la gestion positive d'une société, la première constitution médinoise, intégrés dans la citoyenneté des juifs et des chrétiens. En vérité, les guerres qui se sont produites, c'était des guerres de stratégie, pas pour imposer la foi. La ikra fi din, point de contrainte en matière de religion. Le premier à le comprendre, c'est le prophète lui-même, qui reçoit la révélation, qui lui dit: est-ce à toi de contraindre les gens afin d'être des croyants? C'est pas de sa fonction. Donc le prophète n'était pas un théocrate, n'était pas un chef d'État, il était un porteur de message, mais il était en même temps obligé de gérer une communauté de foi, une communauté nationale, tout en donnant la liberté aux juifs et aux chrétiens d'exercer leur culte. Lui-même, il a invité les chrétiens de Najran, d'effectuer l'évêque de Najran, il a été invité par le prophète pour effectuer sa messe dans sa propre mosquée. Ce qui est une révolution pour les musulmans d'aujourd'hui, ne l'auraient pas accepté. Donc peut-être les musulmans, ils ont un déphasage par rapport aux préceptes prophétiques. On peut, dans la tradition chiite, on peut parler de la mollarchie, c'est-à-dire parce qu'il y a le clergé, etc. Mais dans la tradition, par exemple, sunnite, il n'y a pas ce clergé. C'est-à-dire que l'être individu, le musulman, c'est un être central. Il n'y a pas de corps. La communauté, c'est une appartenance spirituelle. On a vu, c'est vrai, on a vu le statut de dhimmi, mais à l'époque, c'était une étape révolutionnaire. Ça veut dire on reconnaît un statut aux chrétiens, aux juifs dans l'État musulman. Nous avons vu dans l'histoire de l'islam des ministres juifs et chrétiens, donc des pouvoirs politiques donnés à des chrétiens et des juifs qui étaient très influents. Et c'est vrai que, en vérité, la démocratie, moi je veux vous dire, la démocratie, c'est pas l'invention de l'Occident, c'est l'invention de la Mésopotamie, la première démocratie, le premier, assez mûr, comme il a été démontré par l'archéologie. Ça veut dire que la démocratie, c'est quelque chose d'universel, hein, la concertation, la gestion de l'État, la gestion de la société. Et je ne pense pas qu'on a besoin d'une religion pour inventer la démocratie. Donc l'islam n'est pas à inventer la démocratie parce qu'on est dans le champ de l'universel. C'est pourquoi l'islam n'est pas une politique, c'est d'abord une religion. Il y a un côté très positif dans la religion musulmane, c'est-à-dire l'ouverture sur l'universel. L'islam lui-même, il a emprunté des modes d'organisation aux Perses, aux Romains, etc., lorsqu'il a rencontré d'autres cultures. Donc il y a un aspect universel. La raison musulmane a toujours été ouverte sur l'universel. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais à mon sens, il n'y a pas de théocratie en islam. Non, non, j'ai compris, parce qu'il y a tout un projet de Régis Debray d'intégrer l'enseignement du fait religieux dans les établissements publics. Et le débat porte sur qui va enseigner le fait religieux. Est-ce que ce sont des rabbins, des musulmans, etc. Moi, je pense que le fait religieux, c'est un fait historique, c'est un fait. Donc, il faut le soumettre à l'examen tout à fait universel. La question qui se pose, c'est qu'il n'y a pas une neutralité scientifique. Parce que dans les histoires des religions, il y a du bon et du mauvais. L'enseignant, l'historien, il peut avoir un rapport éclectique selon son idéologie et son appartenance démarche épistémologique d'aborder le fait. Donc il y aura toujours une subjectivité. Mais personnellement, je ne revendique pas le fait qu'un imam vienne enseigner le fait religieux. Cependant, il faut que l'État, qui doit imposer un programme d'études du fait religieux qui soit appliqué par tous les enseignants. En vérité, la tradition musulmane, elle ressemble beaucoup à la tradition protestante. Hein, donc, il n'y a pas de clergé, mais il y a des bon, le pasteur, c'est comme le rabbin, c'est comme l'imam. Donc, il n'y a pas d'église et qu'il n'y a pas un modèle canonique de représentativité. Il n'y a pas un modèle canonisé. Il y a une gestion positive, rationnelle, on gère à travers le tissu associatif, à travers des élections pour élire nos représentants régionaux et nationaux pour justement gérer cette question du culte, le culte musulman. Donc voilà. Mais il n'y a pas de modèle théologique canonique qui on est peut-être pour les chiites, ils sont plus organisés à la façon un petit peu similaire au clergé catholique. Moi, personnellement, je suis parmi les gens qui refusent l'importation des imams. Il faut un produit made in France. Donc, un imam dans ses baskets bien françaises. Donc, c'est clair, notre choix est très clair. Il faut maîtriser la langue, et non seulement la langue française, mais aussi la culture française, l'histoire française, le droit français, c'est très important. Donc, ici à Bordeaux, j'anime une formation d'imams où il y a des hommes et des femmes d'ailleurs. Moi, je suis parmi les gens qui défendent que les femmes soient aussi imams, qu'ils s'investissent dans ce côté-là. Donc, il y a des choses qui se font en vérité, mais on n'en parle pas malheureusement. On parle toujours des trains qui ne viennent pas à l'heure, des brebis égarées, mais on ne parle jamais du troupeau qui suit son pasteur. Je pense que c'est une question de temps, c'est une question de temps. Les musulmans constituent, dans leur diversité ethnique et doctrinale, etc., ils constituent déjà une communauté très diversifiée. Je pense que c'est une question de temps et que les choses se font naturellement. Donc moi, je suis très confiant parce que le modèle assimilationniste français, il fonctionne très bien et que avec la troisième, quatrième génération, peut-être nous aurons un islam, pas de France, mais un islam français. Oh, vous savez, un musulman moyen, aujourd'hui, il cherche à travailler, à éduquer ses enfants, à élever ses enfants, etc. C'est la préoccupation des musulmans. Il ne faut pas penser que le musulman, dès le matin, il est en train de lire le Coran jusqu'au soir. Ce serait vraiment n'importe quoi. Les musulmans sont matérialistes, égocentriques, comme nous sommes dans la moyenne nationale, ils votent aussi Le Pen. Donc, bah, c'est un malheureusement, donc nous sommes entrés dans la moyenne nationale. Non, non, mais pour vous dire que ce sont des citoyens comme tout le monde. C'est vrai que aujourd'hui, l'intégrisme, il est plus poussé par la marginalisation, un système qui a ce que j'appelle malheureusement des colonies de dedans, que sont les banlieues. Ce n'est pas les musulmans qui les ont créées. Ce sont un système qui a fait que cette communauté aujourd'hui est à la marge de la société. Bon. Il y a une responsabilité, certes, des musulmans, mais aussi une grande responsabilité des politiques successives, de droite, de gauche d'ailleurs. Il y a des courants qui sont, je dirais, qui sont, je les qualifie en apesanteur. Ils sont ni célestes ni terrestres. Ils sont dans un monde imaginé, d'une cité idéale, d'un monde idéal, et qui construisent leur rapport au texte à cette cité de Médine qui peut-être n'a jamais existé d'ailleurs, et un rapport mécanique, électronique au Coran. Ça veut dire, pour eux, le Coran, la tradition, il suffit d'appuyer sur le bouton pour que la réponse surgisse, alors que l'interprétation des textes, ça nécessite des mécanismes herméneutiques et des outils linguistiques, sémantiques très, 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 très pointus, parce que nous avons devant nous des textes déconnectés de leur auteur. Nous ne maîtrisons pas l'intention de l'auteur du texte, l'univers culturel dans lequel le Coran et la tradition du prophète ont vu le jour, et que ces jeunes lisent leur texte en abstraction de beaucoup d'ingrédients. Donc il y a un rapport littéraliste qui fait que ils prennent à la lettre les versets, à la lettre les hadiths, qui fait que ils sont confrontés à la réalité. C'est un problème. Moi, je pense que c'est un problème qui non seulement existe dans la tradition musulmane, mais qui existe aussi dans le judaïsme, dans le protestantisme, c'est-à-dire l'application de la lettre du texte tel qu'il se présente, c'est-à-dire que l'esprit, il est la lettre et l'esprit. Donc il n'y a pas de laïcisation de l'esprit par rapport à la lettre. Moi, je suis pour la sécularisation de la lettre et de l'esprit, et en dégager ce qui est conforme à l'esprit d'une religion qui invite à l'humanisme, à la transcendance. Malheureusement, le problème, c'est que l'accès sauvage au texte, c'est pas de médiation. Il n'y a pas de médiation. Le problème dont nous souffrons, c'est justement des jeunes qui plongent dans les textes sans médiation. Or, la médiation est nécessaire parce que la médiation
Oui,
nécessite. J'ai compris votre
vous
question.
êtes un bon imam, mais tous ne le sont pas.
Mais voilà, moi je vous livre le vrai problème. Notre problème, ce n'est pas l'accès direct au texte. Justement, notre problème, c'est que des jeunes qui ne maîtrisent pas la langue classique, la langue arabe du Coran, ce n'est pas la langue arabe moderne. Il y a des déplacements sémantiques, c'est-à-dire, il y a même un déplacement sémantique au sein du Coran lui-même, c'est-à-dire que le mot d'un verset à un autre se déplace. Si on ne maîtrise pas les circonstances de la révélation, ça veut dire que les termes n'ont que d'usage en partie, ils n'ont pas de signification essentialiste du terme. Là, on va entrer dans la théorie linguistique. Le statut de la lettre, du mot. Mais le problème, c'est que des gens qui plongent dans les hadiths, les paroles du prophète, justement, d'une façon mécanique. Il faut dire aux musulmans, c'est une question scientifique, une question de technique, c'est une question de. Même un imam ordinaire n'a pas le droit, moralement, d'interpréter le texte s'il n'est pas un exégète. Un imam n'est pas un exégète. Un exégète n'est pas un théologien. Un théologien n'est pas un canoniste, un spécialiste. Ça veut dire que nous avons presque une centaine de disciplines qui n'ont rien à voir, qui sont au sein de cette connaissance islamique. Mais les gens, ils mettent tout, ils pensent que il suffit de lire le texte pour le comprendre, et il suffit de le comprendre pour le mettre en pratique. Je pense à un niveau intellectuel élevé, la réussite scolaire.
Pluridisciplinaire, c'est une véritable
Oui, moi je pense que le texte se livre à tout le monde, c'est clair et net. Donc il y a plusieurs niveaux de compréhension d'un texte. D'abord, le rapport du musulman au Coran, c'est un rapport liturgique, c'est-à-dire il lit le Coran parce que c'est la parole de Dieu. Mais quand il lit le Coran, il ne l'interprète pas. Le processus de l'interprétation n'est pas le processus de la récitation et de la lecture. Je peux dire que bon, le Coran, c'est un livre qui est ouvert sur l'universel. Il est ouvert sur le livre naturel, sur le cosmos, sur les cultures. C'est-à-dire que la sortie de la culture scripturaire coranique n'est pas une sortie de l'islam. Puisque le Coran, toujours, il invite l'homme à découvrir la vérité également dans l'universel. Le mot yatafakkarun, réfléchir. Yaqiloun, raisonner. Est-ce qu'ils ne voient pas? Est-ce qu'ils ne font pas le raisonnement? Nadar, yandoro, ce n'est pas la vue, mais la perception de l'esprit à aux vérités. Donc quand je lis le Coran, je ne peux pas le comprendre, je ne lis pas le divin ailleurs. Donc, parmi ces signes, la diversité de vos cultures, de vos langages, dit le Coran. Donc, la théologie, le Coran, il propose une théologie de la diversité, la relativité de la vérité. Ça veut dire, je cherche la vérité. Être dans l'islam, ce n'est pas un arrêt de quête de vérité, c'est un point de départ. Le Coran, c'est un point de départ, ce n'est pas un point d'arrivée. Or, malheureusement, les wahhabites ou beaucoup de musulmans pensent qu'une fois dans le texte, ils sont dans l'arrivée. Mais non, ils sont dans le départ. Ils ne font que commencer leur cheminement, leur quête spirituelle, morale et intellectuelle. Tout dépend du rapport au texte. Nous considérons tout le Coran est une bonne parole. Tout dépend de l'œil qui le regarde, qui l'interprète. Donc, c'est un texte qui est un concentré de signification qui fait révéler dans 10 circonstances historiques, dans une culture, dans un univers. Si on ne maîtrise pas ces idiomes, ces codes, on ne comprendrait rien. C'est ça le problème d'interprétation d'un texte. C'est vous donner à quelqu'un un texte et vous le lisez en abstraction de ce moment, de son moment de. où il a été fait. Effectivement, le mot est évoqué dans le. C'est vrai, bon, on lit toujours le Coran sous le prisme de la Bible, parce que dans la Bible, la femme doit se cacher parce qu'elle est inférieure à l'homme. C'est écrit. Alors, le Coran ne dit pas inférieur, il dit caché, mais pas inférieur. Donc, on ajoute une lecture biblique sur la lecture coranique. Bon. Bon, le Coran, en vérité, à l'époque, toutes les femmes s'habillaient véritablement, ils étaient cachées. Le Coran, il a demandé aux musulmans de cacher uniquement le côté de on voyait leur sein. Bon, un geste de pudeur, vraiment anodin. C'est un verset qui est passé vraiment, je dirais, furtivement. Mais ça choque beaucoup de musulmans quand je dis ça. Furtivement, c'était pas une avance. Bon, ça n'a pas bouleversé la culture de l'époque. Les femmes étaient déjà avec le khimar, cachaient les cheveux, etc. Tout ce que le Coran a demandé, c'est pour qu'ils se distinguent, pour ne pas être suivis par des voyous qui étaient à la Mecque aussi, des dragueurs, comme on dit aujourd'hui. Bon, pour leur dire qu'on est pudique, c'est un signe, vraiment un code de la société. Le fait de battre la femme, d'abord, on ne peut pas lire le texte comme ça. Le meilleur lecteur du Coran, c'est le prophète lui-même. Comment le prophète a interprété ce texte? D'abord, daraba, wadribouna, et là, une signification métaphorique, c'est-à-dire, il faut interrompre. Daraba alayadi, il a frappé sa main, ça veut dire, il l'a arrêté. Il l'a arrêté. Une femme qui se refuse un besoin sexuel de son mari, dans le contrat du mariage, il est stipulé que le mari doit répondre aux besoins sexuels de sa femme et la femme doit répondre aux besoins, c'est la moindre des choses. C'est dans ce cas bien précis, avec beaucoup de conditions qui entourent, c'est quelque chose de très, qui paraît très, très simple, mais qui est tellement entouré d'ingrédients culturels qui sont des éléments nécessaires pour comprendre. Aujourd'hui, il y a des musulmans qui lisent ce texte à la lettre. Or, le prophète, il a dit: un bon musulman ne bat jamais sa femme. Donc, il n'y a pas plus clair que cette interprétation du prophète lui-même. Un grand savant qui s'appelle Ibn Ashur, il a dit: le musulman qui frappe sa femme, il doit être sanctionné par le code pénal musulman. Donc, c'est d'où la nécessité de la médiation, mais la bonne médiation. Parce que le Coran, vraiment, même un musulman qui maîtrise la langue arabe, s'il ne connaît pas les subtilités de la langue arabe, le contexte dans lequel un texte a été révélé, il ne peut rien comprendre. C'est évident. Les gens passent toute leur vie à comprendre le texte. C'est une affaire de spécialistes. Effectivement, il y a des littéralistes qui pensent qu'effectivement, par fidéisme, c'est-à-dire la foi sans intelligence, vous savez, piété ne veut pas dire intelligence. Beaucoup de musulmans sont pieux, mais qui ne sont pas intelligents, et ça fait beaucoup de dégâts. Mais l'interprétation nécessite l'intelligence du texte, de son contexte et de mon contexte. Comment prendre en considération la notion de la dignité de l'homme et de la femme qui se déplacent dans des cultures? Ce qui est un geste de dignité au Maroc n'est pas certainement un geste de dignité dans une autre culture. Donc, même le comportement culturel d'un breton n'a rien à voir avec le comportement culturel d'un basque. Il y a des idiomes qu'il faut comprendre. Ce qui m'intéresse en tant que théoricien d'un islam en France, c'est comment intégrer les significations de la dignité et du respect dans la culture moderne dans laquelle je suis. Et par ce, je resterai toujours fidèle à la bonne parole du Coran. Tout dépend c'est un problème d'homme en vérité, ce n'est pas le problème des religions. Vous mettez une mauvaise personne dans la laïcité, elle va produire l'intégrisme laïque. Vous allez faire cette même personne dans le judaïsme, il va provoquer un intégrisme. C'est un profil psychologique, c'est un modèle anthropologique qui peut être plus ou moins favorable à une bonne lecture, à une bonne réception du message et à une bonne pratique de son contenu. Le problème, il est dans cet ordre-là. Le Coran, pour un musulman, c'est la parole de Dieu et qui suscite une intelligence, un rapport. Il y a des passages extraordinaires dans le Coran, ce que j'appelle des passages paradigmatiques, contrairement à des passages circonstanciels, qui ne peuvent être compris que dans leur contexte. Les versets paradigmatiques, c'est les transculturels, transhistoriques, la notion de la justice, la notion du respect, Le prophète dit les hommes, ce sont les femmes, ce sont les sœurs des hommes, les gens sont d'égalité, etc. Il y a des principes dans le Coran. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment ces principes ont été vécus dans la culture d'alors et comment moi je vais les vivre dans ma culture. Voilà. C'est-à-dire que le texte ne propose pas toujours un produit final, mais une méthodologie dans le rapport à son monde. Comment le Coran a été articulé dans son monde et ont dégagé des principes qui restent toujours valables. Mais il faut dire que le Coran aussi, c'est un acte spirituel. Lorsqu'on lit le Coran, ses vibrations, etc., ils ont un impact spirituel sur le musulman, même s'il ne comprend pas sa signification. C'est impossible. Tant que l'homme est l'homme, il y a toujours un risque de... Vous savez, nous pensons que Dieu a couru le risque de parler à l'homme au risque d'être mal compris. Mais vous savez, tout penseur, dès qu'il formule une pensée, ils ne lui appartiennent plus. Nous avons vu les idéologies qui se sont développées à partir de grands penseurs qui étaient à l'origine bien intentionnés. On ne peut pas, tant que l'idée, la science aujourd'hui, il génère la barbarie. On n'a jamais tué autant d'hommes dans l'histoire de l'humanité qu'avec la science et la technoscience. Est-ce qu'on va arrêter les technosciences? La laïcité, elle peut être originaire d'une barbarie si l'homme qui est garant de cette laïcité sombre dans la barbarie. Le problème est un problème d'homme. Vous le mettez dans n'importe quel système, s'il ne fonctionne pas bien, il risque de transformer son système qui est à l'origine noble en une machine de barbarie.
Vous voudriez penser, peut-être de confession musulmane, on va dire, parce que...
Je pense que la question est légitime parce que la laïcité est une des dimensions de la République. La République, elle est démocratique, laïque, une et indivisible, égalitaire, sociale. Donc il y a plusieurs dimensions de la République. Mais la dimension laïque, elle est en rapport avec la religion. C'est cette dimension de la République qui est en rapport avec la religion. Mais aujourd'hui, le problème qui se pose pour la laïcité, c'est une présence de musulmans. On ne peut pas faire l'économie de poser cette question. Moi, je la considère comme légitime. Effectivement, il y a des citoyens qui partagent un socle commun qui est les valeurs de la République, mais cette République, la société, elle est multiculturelle, multiethnique et multiconfessionnelle, et l'aspect laïque de la République, il gère le côté cultuel. Donc, c'est tout à fait normal qu'on pose la question que vont faire les musulmans de leur religion. Parce que ce qui intéresse en vérité la société, ce n'est pas ce que dit le Coran, ce que va en faire les musulmans. C'est le musulman qui est interrogé, ce n'est pas le texte. Le texte, il ne parle pas, il ne bouge pas. Ce n'est pas lui qui fait les prières, le texte. C'est le musulman. Et donc, le musulman, c'est lui qui fait parler le texte, c'est-à-dire, il lui donne une visibilité. Donc, on ne va pas que dire l'islam, parce que bon, l'islam, c'est multiples lectures dans des cultures différentes. Ce qui intéresse, c'est le musulman situé en France, comment il va établir son rapport à sa religion par rapport à la laïcité. Donc, c'est évident que le musulman est d'abord un citoyen, mais la question est en rapport avec la composante religieuse de ce citoyen. Il y a des citoyens agnostiques, athées, mais il y a des citoyens croyants. Et la République est la République de tout le monde. Il veut gérer ses convictions. C'est la laïcité qui est cet espace de gestion des diversités, des convictions philosophiques et religieuses. Et il est légitime que la société nous somme de répondre de quel islam s'agira-t-il dans votre rapport à la société. Bon, moi, je ne vois rien de choquant là-dessus. Moi, ce qui m'inquiète personnellement, pas en tant que musulman, mais en tant qu'individu qui a plusieurs appartenances identitaires. Je ne peux pas fermer uniquement mon identité uniquement dans le registre religieux. J'ai une éducation, j'ai une psychologie, un profil, un français, franco. Donc je suis déjà dans de bordelais aussi, etc. Donc il y a plusieurs éléments qui viennent construire l'individu. Mais ce que je crains, c'est ce clonage culturel, cette pensée unique, cette esthétique unique, ce goût unique, ces émissions uniques à la télévision qui se ressemblent. On est en train de cloner l'humanité. C'est ça l'effet de la mondialisation. C'est on veut vraiment, on a horreur de la différence. Or, le polymorphisme génétique nous apprend la biologie moléculaire et la richesse de l'humanité. Et c'est une force contre les épidémies, puisque nous sommes dans un département d'épidémiologie. Plus une population génétiquement est riche, plus elle résiste aux épidémies. Eh bien, plus une société est pluriculturelle, plus elle est forte. Et je pense qu'il faut cultiver la différence dans la tolérance. Et il ne faut pas être choqué parce que l'autre n'est pas forcé à avoir la même vision du monde que moi.
Mesdames, messieurs, mes chers collègues, mes chers amis, parce que je vois beaucoup de têtes amies qui sont venues par amitié et souvent de loin, donc je suis très très touché pour cette leçon d'émérita. Pourquoi émérita? Parce que c'est un peu le contrepoint de ce qu'on pouvait faire autrefois, les leçons inaugurales, quand on accédait à une chaire et puis ça disparut des usages. Et c'est un peu regrettable parce que dans notre pays, on ne s'est pas allié, comme vous le savez, tradition et modernité. Alors pourquoi ce choix de ce thème, l'eugénisme, l'ancien et l'actuel, celui auquel on est confronté, et vous verrez que c'est très discutable. C'est comme pour l'euthanasie, il faut savoir de quoi on parle. Et souvent, les gens n'emploient pas les mêmes vocables et se disputent à tort. Alors pour trois raisons. La première, c'est parce que il y a eu un chemin un peu bizarre, une déviation de la génétique par l'eugénisme. L'eugénisme a pris prétexte de la génétique, alors qu'on était tout à fait balbutiante à la fin du XIXe siècle, bien entendu, puisque Mendel, les lois de Mendel n'ont été redécouvertes qu'au début du XXe siècle. Et ayant créé la génétique à Bordeaux, CHU de Bordeaux, flambeau qui a été repris avec brio par Didier Lacombe et son équipe, et il va de soi, il est d'un devoir élémentaire de connaître l'historique de sa discipline. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est parce que depuis longtemps, je m'intéresse aux mentalités, les mentalités. Discipline qui a été créée par un Bordelais d'origine, qui est Philippe Ariès, à propos de l'enfant, l'image de l'enfant au cours des âges. Il a fait aussi la mort, l'amour, etc. Et les historiens contemporains, ceux des annales, dans la lignée de Fernand Braudel, s'intéressent à ce qui est des mentalités au long cours. Le bruit, par exemple, il y a eu un travail pas très ancien, sur le bruit dans nos sociétés. Et je suis frappé de voir que nos collègues historiens, je pense à Jean-Pierre Poussou, qui a été recteur à Bordeaux et qui a été professeur d'histoire moderne, au sens historique du terme, et président de la Sorbonne, et qui s'intéresse depuis quelques années et qui a lancé ses élèves sur l'histoire des hôpitaux à Paris. Et c'est le cas du professeur Guillaume, qui a enseigné à Bordeaux 3. Donc, voilà le deuxième point. Le troisième point, il est plus intime, il est lié à mon histoire familiale. Je suis un ancien pupille de la nation, mon père était résistant, il a été, comme tout son réseau, dénoncé par les collaborateurs et miliciens de l'époque, et puis il est parti à Buchenwald, et... Après avoir été libéré en 1945, il est mort de tuberculose, de consomption. Et donc, c'est également une motivation interne à comprendre ce qui a pu se passer dans ce XXe siècle atroce. Alors, ceci étant dit, il faut bien remarquer qu'il y a eu comme une espèce d'omerta, de loi du silence, à propos de l'eugénisme, parce qu'on l'a immédiatement, dans la mentalité collective, associé au nazisme. Le nazisme a été vaincu, il y a eu le procès Nuremberg, et on croit que l'affaire est terminée, ce qui est un peu rapide. Hein. Mais on est coutumier du fait, vous voyez, pour la guerre d'Algérie, qu'on appelait pudiquement les événements d'Algérie. Il a fallu tout ce temps.